Stéréochic Info. En partenariat avec la rédaction lesfrançais.press.
Mission spéciale aujourd'hui sur la radio des Français dans le monde après l'interview du nouveau ministre des Français de l'étranger, Olivier Becht. On se retrouve pour un débat tout de suite sur notre antenne. C'est avec un multi-direct puisque chaque représentant politique est réuni sur Zoom aujourd'hui. L'interview va être menée par Fabien Ferrasson, le rédacteur en chef lesfrançais.press que j'accueille. Fabien, bonjour.
Bonjour Gauthier.
Et Jérémy Michel, journaliste et élu des Français de Belgique. Bonjour Jérémy.
Bonjour Gauthier.
C'est parti donc pour ce débat. On va demander à chaque intervenant de faire des réponses courtes pour qu'on puisse aborder un maximum de sujets. Et Fabien, si tu veux bien, on va commencer par la présentation de nos invités.
En effet, on a le plaisir et l'honneur de recevoir quasiment toutes les couleurs de notre Assemblée nationale, et on va commencer avec Mélanie Vogel, qui est marseillaise d'origine, étudiante à Sciences Po, qui, après ses diplômes, a travaillé au Chili, à Toronto et à Bruxelles, où elle était attachée parlementaire, élue sénatrice des Français de l'étranger en 2021. Elle est élue par, elle représente Europe Écologie Les Verts, qui a intégré l'ANUPS. Bonjour, Madame Vogel.
Bonjour.
Après, je passe la main à Jérémy.
Voilà. Ouais, nous recevons également Frédéric Petit, qui représente le MoDem aujourd'hui, la majorité présidentielle. Frédéric Petit, député depuis 2017 de la 7e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour, monsieur Petit.
Bonjour.
Nous avons également avec nous Ronan Le Gleut, sénateur LR depuis 2017, qui avait ses bases en Allemagne. Bonjour, Ronan Le Gleut.
Bonjour, merci lesfrançais.press pour votre invitation.
Et enfin, on finit avec Max Bégon, qui est le responsable des Français de l'étranger au Rassemblement National, expatrié en Angleterre, à Londres. Merci, monsieur Bégon, d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci à vous.
On va découper cette interview en quatre parties. La première d'entre elles, la relation entre les Français de l'étranger et les consulats. Fabien, je pense que tu veux lancer ce débat qui promet sans doute d'avoir un certain nombre de points de vue différents.
En effet, c'est une relation assez complexe entre les consulats et les Français de l'étranger, en particulier depuis la pandémie. Vous savez qu'il y a particulièrement désorganisé tout le système. Système qui était déjà affaibli par une réduction du nombre de fonctionnaires et une digitalisation qui se met lentement en place. Aussi, avec l'augmentation des Français à l'étranger, aujourd'hui, nos compatriotes attendent des consulats, des services proches de ceux qu'ils retrouveraient en mairie en France. On se pose la question, est-ce que c'est vraiment faisable d'atteindre ce type, cet objectif d'avoir des services identiques à ceux qu'on trouve en mairie? Et est-ce que, si c'est bien l'objectif, est-ce que la digitalisation est la bonne voie? Et pour répondre en premier, on va donner la parole à Madame Vogel, qui est la seule femme, et donc honneur aux femmes.
Merci beaucoup. Je pense que, si vous me permettez, avant de parler de la digitalisation, je pense que la priorité là aujourd'hui des Françaises et des Français de l'étranger, et je ne crois pas qu'on va nécessairement être en désaccord entre nous ici, c'est même pas d'avoir le même service que dans une commune, c'est d'avoir déjà un service, puisque on sait que le manque de ressources, la baisse des effectifs a comme effet que beaucoup de nos compatriotes sont dans l'impossibilité d'avoir des rendez-vous dans des délais raisonnables, ce qui en cascade amène un certain nombre de problèmes, et qu'on a des agents qui sont aussi en grande souffrance, qui sont dans beaucoup de consulats en burn-out, etc. Et donc, je crois que avant la question de la digitalisation, la priorité, c'est bien de réarmer nos services consulaires en remettant des postes, en remettant des gens. Et ça, c'est la priorité, qu'on soit dans un service digitalisé ou non. Et pour répondre à la digitalisation, moi, j'ai rien contre. Au contraire, je pense que dans beaucoup de situations, c'est un plus. Donc, je ne m'y oppose pas du tout. Mais on sait que la digitalisation, elle nécessite des humains de toute façon. Ils font pas les mêmes choses, mais il faut des humains. Et il faut avoir la capacité de garder aussi un service en personne pour les personnes qui sont qui ont des difficultés avec avec les services en ligne, et donc ça nécessite plus de personnel, et c'est ça, je crois, la priorité.
Et d'ailleurs, cette année, l'année qui arrive, pour la première fois, il va y avoir une augmentation du nombre d'agents avec une centaine de personnes recrutées. Monsieur Petit, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est un sparadrap ?
Écoutez, ce que je pense d'abord, c'est que oui, effectivement, c'est la deuxième année qu'on réaugmente. On a déjà réaugmenté l'an dernier. Par contre, vous avez cité le Covid. Moi, je pense que le Covid a forcément désorganisé, évidemment, mais le Covid nous a permis aussi d'envoyer énormément d'argent, ce qui a fait que un certain nombre de choses ont été certes désorganisées, ont été très difficiles à organiser, mais il y a eu, pendant la période Covid, énormément de soutien financier et aux Français à l'étranger. Donc je pense que ça nous aide à comprendre. Moi, je ne suis pas pour numériser, pas numériser. Moi, ce que je crois profondément, et je l'ai souvent dit, souvent écrit, et je suis aussi en discussion vive avec des membres de l'administration et même du gouvernement là-dessus, le Premier ministre, je pense, le nouveau ministre a compris ce que je voulais dire en mes premières discussions, c'est que c'est un métier, le service. C'est un métier qui n'est pas un métier de diplomate, qui est un métier de service. Donc, ce qui s'est passé dans ces métiers de service dans les 30 dernières années, c'est qu'il a été révolutionné par la numérisation, par le fait qu'on est beaucoup plus à l'étranger. Voilà. Quand on dit est-ce que ça doit être comme dans les mairies ou pas comme dans les mairies, soyons clairs, on va pas mettre un bâtiment une emprise nationale dans tous les 200 km dans le monde. Donc, ce qui me manque aujourd'hui dans ces services, et ce que j'ai souvent répété, c'est l'organisation générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion sur à quoi ce métier doit servir, comment faisons-nous venir dans ces métiers les gens qui savent le faire. En France, on a une expérience très bonne, c'est les sous-préfectures qui se sont très bien modernisées dans les 30 dernières années. Eh bien, c'est ça qu'il faut que nous fassions. Et ça n'a rien à voir avec... Si on a du mal à prendre des rendez-vous aujourd'hui en Allemagne, si c'est une catastrophe, c'est pas parce qu'il y a moins de monde. Au contraire, il y a plus de monde. C'est parce que le travail de numérisation de cette petite fonction de la prise de rendez-vous n'a pas été bien fait. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pas le nombre de personnes, c'est comment on réfléchit à poser du haut en bas et sur un service une parole qui est une parole logique. Ce qui est le plus frustrant pour les gens à l'étranger, c'est pas que le service marche pas, c'est que des fois il marche et des fois il marche pas en fonction de l'endroit où on est, en fonction du consul, en fonction du monsieur qui m'a reçu, qui a répondu au téléphone. Je crois qu'on avance pas mal, on a beaucoup avancé avec la plateforme France Consulaire, on va continuer à développer ça. C'est comme ça qu'il faut travailler, il faut travailler en rassemblant les services, en ayant des vrais responsables qui et pas des services, la qualité de service qui dépendent de la tête ou de l'histoire du consul qu'on touche cette année. On a un nouveau consul, ça se passe bien. On n'a pas un bon consul, ça se passe pas bien. C'est ça, moi, qui me gêne le plus. Mais nous avons remis des postes, et c'est pas notre majorité qui les avait enlevés pendant 15 ans avant.
Justement, on a un de nos invités qui vit dans une ville où il y a beaucoup de problèmes, c'est Londres. Monsieur Bégon, on a peu l'occasion d'entendre le Rassemblement national, leur position sur la situation du réseau consulaire. Quelle est votre position ? Quel est votre retour ?
Bah moi, je suis obligé d'être en désaccord avec Monsieur Petit. C'est-à-dire que je n'observe pas que les choses avancent, mais qu'elles reculent. Par exemple, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a 5 postes consulaires qui ont été supprimés dans le monde. Il y a le notariat consulaire qui a été supprimé. Et de manière plus concrète, j'ai vérifié ce matin, il est absolument impossible de prendre un rendez-vous de passeport au consulat, on reçoit un message, tous nos créneaux sont réservés.
D'ailleurs,
donc le service consulaire, d'un point de vue passeport, a quasiment disparu. Je pense que c'est le résultat d'un désengagement de la France au plus haut niveau qui traduit la...
Oui, et puis peut-être aussi une mauvaise utilisation des budgets, comme le disait Monsieur Petit, parce que vous venez d'évoquer le problème des rendez-vous. On sait que ça a l'air très compliqué pour l'administration de mettre en place un système d'alerte. Et pourtant, on a vu un petit jeune, quoi, un jeune étudiant, monter ce service, ça s'appelle rendez-vousconsulat.fr, qui a permis de créer des alertes pour les gens qui veulent des rendez-vous dans les différents consulats. Monsieur Petit, pourquoi c'est pas faisable au niveau de l'administration, tout simplement?
Je vais contredire Monsieur Bégon sur deux choses. D'abord, nous sommes d'accord. Je suis d'accord que ça ne marche pas. Je veux dire, je l'ai dit. Et là où nous ne sommes pas d'accord, c'est pas un désengagement. C'est que nous avons une administration, mais pas que dans les Français à l'étranger. Je l'ai dit, je l'ai écrit depuis 5 ans. Mes rapports sont publics. Effectivement, ce n'est pas un problème de personnel, ça. C'est un problème d'une administration qui doit apprendre à concevoir des systèmes avant de les numériser. Voilà, je vous donne une autre chose que personne ne sait et qui n'est pas beaucoup expliqué à part moi, parce que je l'ai découvert au sujet quand j'ai travaillé sur la modernisation pas trop mal réussie des certificats de vie. Eh bien, c'est chaque consulat qui fait son site internet. Voilà. Donc, on a une administration qui n'a pas, à la différence de ce qui se passe dans beaucoup de mairies en France, et c'est pour ça que notre nouveau ministre me semble quelqu'un d'expérimenté, puisque quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit oui, je sais, je l'ai fait dans ma mairie, je sais comment on fait pour moderniser, il faut des gens stables. Il faut pas que la direction de la DFAE change tous les 3 ans. Il faut quelqu'un qui soit là 10 ans et qui remette tout ça en place. C'est ce genre de choses qui n'est pas un problème d'argent. Je l'ai dit, moi, en 2017, en 2018, ça sert à rien de remettre de l'essence dans une voiture qui marche pas bien. D'abord, il faut mettre le piston en face du cylindre. Après, il faut remettre du gasoil, et nous en avons remis. Mais l'exemple type que prend M. Bégon, c'est pas parce qu'on mettra 20 postes supplémentaires à Londres aujourd'hui que la réponse au téléphone ou que les rendez-vous seront mieux pris. Il faut simplement bien faire les choses avec des gens dont c'est le métier. Et pas des gens qui arrivent dans des périodes d'attente dans une fonction diplomatique. Ça, c'est fondamental, et ça, c'est ce que nous avons commencé à faire avant le Covid. Le Covid nous a interrompus, mais en contrepartie, on a quand même obtenu 250 millions. Mais il faut continuer.
Donc au final, c'est pour vous plus un problème de gouvernance entre guillemets de l'administration. Une gouvernance qui aussi a été remise à plat dans l'éducation avec des réformes qui ont été votées l'année dernière et qui se mettent en place. Je vais donner la main à Jérémy qui va mener cette partie du débat.
Alors vous écoutez la radio des Français dans le monde avec la rédaction lesfrançais.press. Nous sommes en direct pour ce débat. Ce débat sera rediffusé tout à l'heure sur notre antenne à minuit et sera disponible également en podcast sur les sites web des deux partenaires, Stéréochic et lesfrançais.press. Jérémy.
Merci. Un sujet qui va aussi attirer de l'attention, c'est celui de l'éducation en français à l'étranger et la question de l'accès à ces lycées. Alors, un des moyens, nous le connaissons, c'est celui des bourses scolaires. Le ministre Becht évoque dans son interview un nouveau mode de calcul, mais est-ce que ce nouveau mode de calcul va permettre de moderniser ces bourses scolaires, en tout cas de permettre à un certain nombre de populations de pouvoir enfin, selon certains, accéder au lycée. Renan Le Gleut, sur cette question, sur ces critères des bourses scolaires, comment appréciez-vous la nouvelle proposition du ministre ?
Sur les bourses scolaires, on a plusieurs problèmes majeurs. Le premier, c'est que tout simplement avec l'agenda 2030, l'objectif du doublement du nombre d'élèves, on n'a pas d'alignement du montant des bourses scolaires, donc on a de plus en plus d'élèves dans le réseau, aujourd'hui près de 400 000, hein, sachant qu'au moment du discours de l'agenda 2030, on était à 350 000 élèves dans le réseau, donc ça veut dire que l'objectif de doublement est à 700 000 élèves, sauf que les bourses scolaires sont stables. Alors on peut évidemment assez facilement aboutir à la conclusion qu'il y a moins de bourses scolaires par élève. Ça, c'est le premier point. Mais la question des critères des bourses scolaires est peut-être encore plus fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, on tient compte de la résidence principale. C'est-à-dire que sont exclus de l'accès aux bourses scolaires des familles qui n'ont pas de revenus mensuels élevés, mais qui ont un bien immobilier dans lequel elles habitent, c'est-à-dire leur résidence principale. Et ça peut être un critère d'exclusion d'accès aux bourses scolaires. Le fait d'avoir une résidence principale ne dit rien des revenus mensuels. C'est le syndrome des pêcheurs de l'île de Ré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, c'était un sujet qui avait été soulevé à l'époque de l'ISF, où on expliquait que, tout simplement, par héritage, des pêcheurs de l'île de Ré avec des revenus mensuels très faibles étaient tout simplement logés dans la maison familiale qui avait pris de la valeur, et ce qui entraînait le paiement de l'ISF. Eh bien, en fait, chez les Français de l'étranger avec les bourses scolaires, on a un système tout à fait comparable, c'est-à-dire que si on pousse la logique jusqu'au bout des critères actuels, On demande finalement à des familles françaises de vendre leur logement, le logement dans lequel elles habitent, pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. Et ça, c'est inacceptable.
Mélanie Vogel, est-ce que vous pensez également que d'exclure la résidence principale des critères serait une bonne solution ?
En fait, pour moi, le problème principal des bourses, c'est pas tellement les critères. Il faut retravailler sur les critères, c'est absolument vrai. Mais là, on a deux sujets. Un, effectivement, comme l'a dit Ronan Le Gleut, et il a tout à fait raison de le dire, on peut pas avoir un système, disons, social égal, un doublement du nombre d'élèves sans doubler les moyens. C'est pas possible. Ou alors, c'est possible dans des conditions où les élèves supplémentaires proviennent que de familles ou de milieux sociaux qui peuvent payer sans avoir de bourse. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que même aujourd'hui, avec les enveloppes qu'on a, on a une grande partie qui n'est pas dépensée. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y a deux raisons à ça, à mon avis. Une raison, c'est qu'on a souvent des dossiers qui sont très compliqués à monter. Et en fonction des postes, parfois des documents qui sont demandés aux familles qui sont très intrusifs et parfois des familles renoncent à faire des dossiers de bourse parce qu'elles ne sont pas sûres qu'elles vont l'obtenir à la fin, qu'elles ne comprennent pas trop pourquoi on leur refuse ou on leur accepte et que ça leur paraît trop compliqué. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que moi, je pense qu'on a un sujet aussi de mixité sociale dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. Au moment de la loi de Madame Cazebonne qui a été adoptée au Parlement, j'avais fait adopter un amendement qui demandait un rapport sur le niveau de diversité sociale dans notre réseau. Et il a été adopté, donc j'attends avec impatience ce rapport-là, parce que je pense que si on veut que nos établissements scolaires à l'étranger puissent toujours rendre un service public aux Françaises et Français établis à l'étranger, même quand ils n'ont pas forcément les moyens, sans qu'ils soient dans des situations très vulnérables, mais simplement des gens de classe moyenne qui ne peuvent pas payer l'enseignement, eh bien, il faut revoir le problème des frais de scolarité, etc. Et tout ça, c'est lié à l'argent qu'on injecte dans le réseau. Parce que si vous avez plus de réseaux, plus d'écoles, plus d'établissements, mais moins... Mais à budget constant, eh bien forcément, à un moment donné, l'augmentation, il faut que quelqu'un la paye. Et si ce n'est pas la puissance publique, c'est les parents et donc les frais de scolarité augmentent.
Max Bégon, lorsque vous entendez Mélanie Vogel parler de mixité sociale ou de favoriser cette mixité sociale dans les établissements français à l'étranger, quelle est votre première réaction ?
Ah, je suis assez d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que Marine Le Pen, dans son programme de présidentiel, avait proposé l'indexation de la dotation budgétaire des établissements français à l'étranger sur ses effectifs, ce qui éviterait le problème qui avait été mentionné d'un budget par élève qui baisse, et de manière générale à augmenter ce budget qui est actuellement insuffisant. Et si on prend juste l'exemple de Londres, donc le lycée français Charles de Gaulle, en 5 ans, plus 28% d'augmentation des frais de scolarité. Donc la réalité du terrain en fait va complètement à l'encontre des objectifs affichés du gouvernement. C'est la situation empire au lieu de s'améliorer.
Alors justement, par rapport, Frédéric Petit, à cette dissociation entre les objectifs du gouvernement et puis la réalité de terrain telle que nous venons de l'évoquer, quel message vous pourriez porter aux différents ministères, à la Première ministre ou bien même...
Je ne vais pas porter un message, je vais d'abord porter une réalité de terrain que mes collègues oublient. D'abord, quand on dit qu'on va doubler... Je veux dire, il faut connaître les chiffres. Il y a 120 000 enfants dans le réseau français aujourd'hui. Il y a 500 000 enfants français dans le monde. Quand on dit qu'on va doubler le réseau, c'est un geste diplomatique, c'est un geste de rayonnement. Ça ne veut pas dire qu'on va demander à 500 000 enfants français de plus de partir pour scolariser plus d'enfants français dans le réseau. Ça n'a rien à voir. Et là, on parle des bourses. Et les bourses, c'est pour les enfants français. Évidemment, aujourd'hui, dans le réseau, il y a un peu moins d'un tiers d'enfants français dans le réseau, et l'objectif, c'est que ce réseau, il travaille sur les classes moyennes des pays dans lesquels nous nous implantons. C'est ça l'objectif diplomatique, c'est marqué dans les statuts de l'AEFE, je le rappelle très souvent. Et l'objectif, l'autre objectif, il y a trois objectifs dans ce réseau, il y a évidemment permettre, quand c'est possible, géographiquement, que des enfants français aillent à l'école française, et là on les aide avec ces bourses. Voilà. Et le troisième, c'est la coopération éducative dont on parle aussi très peu. Donc moi, quand on me dit qu'il faut que les bourses, si on double le réseau, on va doubler les bourses. Mais non, les bourses sont proportionnelles au nombre d'enfants français dans le réseau, qui a été assez stable. Et si des enfants français ne vont pas dans le réseau, moi, mes filles ne sont pas toujours allées dans le réseau. C'est un choix familial, c'est un choix différent. Il y a des tas de familles aujourd'hui qui choisissent de ne pas aller dans le réseau, soit pour environ 250 000 parce qu'il n'y a pas de lycée français à proximité, et d'autres parce qu'ils préfèrent que l'enfant qui est binational ou parce qu'ils préfèrent que l'enfant découvre une autre culture, une autre manière de travailler. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut revenir. Après, je remercie Mme Vogel d'avoir bien spécifié que, effectivement, tous les postes n'ont pas la même attitude. Et on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'attitude des postes par rapport aux bourses n'est pas gérée de manière correcte. Il n'y a pas cette opération où on sait que si on va au consulat d'un tel endroit et au consulat d'un tel autre endroit, on sera traité pareil. C'est à la tête du chef de poste. Ça, c'est quand même problématique. Après, pour répondre à monsieur Bégon également, non, le budget, les écolages de Londres augmentent parce que Londres est un établissement en gestion directe, donc un des très très rares établissements qui est géré et subventionné par la France. Mais sur nos 560 lycées aujourd'hui, il y en a presque 500 qui ne sont pas du tout financés par la France, pas du tout. Voilà, sauf pour les bourses, s'il y a des élèves français qui participent. Et le lycée français Charles de Gaulle perd des effectifs. Il perd des effectifs. Donc, forcément, il a des problèmes de décollage. Maintenant, moi, sur ma question des bourses, j'ai dit des choses il y a très longtemps et je les répète. Je suis d'accord qu'on manque de mixité sociale. Je pense qu'il faut qu'on ait 100 millions d'euros de bourses très rigides. C'est bien parce qu'au début de l'AEFE, il y avait de la fraude. Donc, on a un système très rigide. Je dis depuis longtemps que, à mon avis, on a évalué avec mon rapport de la deuxième année, on pense qu'il y a entre 5000 enfants français qui sont exclus du système français pour des raisons financières. Cela, je pense que nous devrions aller les chercher avec 10 millions ou 15 millions de bourses. J'avais deux fois proposé un amendement comme ça, qui, lui, serait dans un système très peu rigide et géré directement par les élus locaux. J'avais beaucoup discuté. Je pense que ça, on finira par y arriver parce que ça, c'est logique. Ça ne prend pas de risque de fraude et ça permettra de redonner et d'avoir une attention locale pour faire venir cela. Et moi, je suis aussi pour qu'on ait en gros la même valeur, 10 millions, 15 millions de ce que j'appelle des bourses Camus, c'est-à-dire exactement de ce qu'a dit Mme Vogel, en coopération avec les États locaux, de faire venir des bourses pour les enfants non français, d'avoir quelque chose qui va chercher les enfants, je vous appelle ça Camus, vous voyez bien pourquoi, c'est-à-dire d'aller trouver dans les pays où nous sommes, en lien avec le gouvernement du pays où nous sommes, de quoi faire de la mixité sociale, y compris, pas uniquement entre Français, mais également avec l'ensemble des enfants représentés sur le territoire où se trouve le lycée français.
Une petite remarque
sur la. Je suis d'accord sur le critère, l'injustice du critère du logement, et on est en train de la retirer et de la simplifier grandement.
Merci.
On voit tout de même que les critères restent quand même au cœur du débat. Il y a plusieurs pistes qui viennent de s'ouvrir et je pense que dans les prochaines semaines, on aura l'occasion d'aller plus loin dans la réflexion de ceci.
Merci, vous êtes au cœur de ce débat. C'est organisé par les Français.press, un site d'information pour les expats par les expats. Ça se passe en direct sur Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde qui s'écoute 24h sur 24 et 7 jours sur 7, une radio qui ne dort jamais. Cette interview se poursuit, ce débat continue avec le troisième chapitre à présent. On va parler des conseils consulaires et de leur fonctionnement. Je pense que Fabien va lancer le débat.
Alors oui, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que le temps file. Le conseil consulaire innovation de 2012, dont le poids a été renforcé par une réforme en application depuis l'élection des nouveaux élus consulaires en mai 2021, mais une réforme qui a accouché d'une instance qui a du mal à trouver sa place. Aujourd'hui, on voit, on l'entend souvent, selon les postes diplomatiques, on a des résultats totalement différents. On a des pays en Amérique du Sud où l'élu consulaire est carrément exclu du consulat, d'autres où les consulats ne font pas de place ou en tout cas limitent la capacité d'intervention. Est-ce que finalement, ce conseil consulaire, est-ce qu'il a vocation à être pérenne? Est-ce qu'il va arriver à trouver sa place dans le dispositif ou est-ce qu'il ne vient pas comme un doublon avec le consul, avec les fonctionnaires. Et pour commencer la première réponse, je vais la demander à Ronan Le Gleut, qui connaît bien le sujet.
Oui, merci. Le conseil consulaire joue un rôle absolument fondamental, c'est l'échelon de proximité. Et plutôt que d'envisager, comme vous le sous-entendez, de revenir sur cette innovation, au contraire, il faut le renforcer. C'est-à-dire qu'il faut donner plus de pouvoir aux conseillers des Français de l'étranger, membres du conseil consulaire, et cela implique notamment le fait que les chefs de poste, c'est-à-dire l'ambassadeur, le consul général, le chef de section consulaire de l'ambassade, intègre notamment le fait que désormais le président du conseil consulaire est un élu. Et effectivement, dans la pratique, on le voit notamment sur la détermination de l'ordre du jour, certains postes consulaires dans les 130 circonscriptions consulaires dans le monde n'ont pas encore pris la mesure des dernières réformes et du fait que effectivement le conseil consulaire doit prendre toute sa place. Et prendre toute sa place, cela veut dire, à mon sens, aller vers une forme de co-gestion consulaire. La co-gestion consulaire, ça signifie que du point de vue des autorités consulaires, on considère que le conseil consulaire est là pour aider, accompagner, faire en sorte que la réflexion des affaires consulaires puisse être co-gérée avec les élus qui ont une légitimité démocratique que n'ont pas les représentants de l'État, puisqu'ils sont élus, rappelons-le, au suffrage universel direct. Et d'une certaine manière, on le voit bien à travers les fonctions qui leur incombent dans la pratique, qui ne sont pas toujours déterminées par la loi, qu'ils remplissent d'une certaine manière le rôle d'agent consulaire bénévole, puisqu'on a eu un désengagement de l'État progressif. Je rappelle que depuis 2012, 1450 postes ont été supprimés au Quai d'Orsay sur un plafond d'emploi de 16 600, alors que ça ne représente que 0,5% de la fonction publique d'État. Et en fait, ce désengagement de l'État fait que les élus, notamment dans l'information qui est rendue aux communautés françaises, sont extrêmement sollicités, puisqu'on n'arrive plus à joindre son consulat par permanence téléphonique, ou en tout cas très rarement dans certains postes consulaires, mais dans la majorité, on a fermé les permanences téléphoniques. Et donc ce sont les élus eux-mêmes qui remplissent ce rôle, et c'est la raison pour laquelle il faut aller vers davantage de co-gestion consulaire.
Madame Vogel, j'imagine que vous êtes d'accord sur le constat que fait Monsieur Le Gleut sur le manque d'effectifs au sein des consulats qui transfèrent une partie de la charge de travail sur les élus. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette co-gestion ? Est-ce qu'on doit aller plus loin ? Est-ce que finalement, on ne devrait pas donner la responsabilité du consulat ou de la section consulaire à l'élu ?
Alors, effectivement, ça m'arrive tout à fait de pouvoir être d'accord avec Ronan Le Gleut. Et c'est vrai que on a, en fait, le problème avec les conseils consulaires et ce rôle de présidente de conseil consulaire qui a été créé, c'est que dans un système où on a des élus qui ont une légitimité démocratique assez forte, puisque ce sont des gens qui sont élus au suffrage universel direct, qui font des campagnes, qui s'engagent sur des programmes, etc., mais qui ont très peu de moyens et très peu de prérogatives. Donc on a des gens qui sont dans une situation très compliquée, qui ont été élus, mais qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre et qui se retrouvent, parce qu'on a des postes qui ne sont pas assez fournis en personnel, être très souvent les supplétifs de l'action publique à l'étranger, et sans avoir pour autant toujours la légitimité. Et donc ça peut effectivement créer, enfin la légitimité, sans avoir les moyens de répondre aux demandes des citoyennes et des citoyens qui se tournent vers eux parce qu'ils ont des problèmes. Et ça crée effectivement des tensions. Alors parfois, il y a des endroits dans le monde où ça se passe très bien, puis il y a des endroits où c'est plus compliqué. Et je crois que je suis assez d'accord avec le fait que c'est pas... Moi, je dis pas qu'il faut revenir sur cette réforme, qu'elle est mauvaise et qu'il faut pas qu'il y ait de conseil consulaire. Mais je pense que pour que ça marche bien, il faut vraiment renforcer le rôle des élus, leur donner plus de prérogatives et faire en fait que cet équilibre, cette co-gestion, comme l'appelle Ronan Le Gleut, elle vienne pas juste d'une volonté politique qu'on aurait comme ça énoncée, mais qu'elle vienne de pouvoirs réels, de prérogatives qu'auraient les conseillers consulaires qui feraient qu'il y aurait un équilibre. Je pense par exemple, un exemple parmi d'autres, mais le budget staff, vous savez qu'il est pas assez utilisé et qui c'est le budget qui nous permet de financer des associations à l'étranger. Je pense par exemple que il faut que les élus aient plus de pouvoir dans la sélection des projets. C'est un des exemples mais qu'ils aient des vraies prérogatives. Et je pense que ça permettra de donner un équilibre un peu plus naturellement. Et la dernière petite chose, puisque Ronan Le Gleut est là, moi je pense, enfin j'aimerais bien qu'on fasse, peut-être pas tout de suite, mais quand ce sera le temps, un rapport pour faire le bilan un peu de ce que ça a été la mise en place des conseils consulaires, là où ça a bien marché, là où ça n'a pas marché, pour qu'on ait un peu des pistes d'amélioration. Et je le dis parce qu'il préside le groupe d'études des Français de l'étranger au Sénat.
Exactement. Monsieur Petit, donc vous allez une fois de plus nous dire que c'est un problème d'organisation, que l'administration est mal gérée.
Non, pas du tout. Je vais dire que je suis au mouvement démocrate, moi, donc je suis un peu surpris par ce concept de co-gestion. Moi, en démocratie, l'exécutif et l'élu, c'est pas pareil. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un travail d'exécutif. On a dit que ce travail d'exécutif, on en a parlé tout à l'heure, il faut le renforcer. On est tous d'accord qu'il faut le renforcer. Nous avons commencé à le renforcer. Quand on parle de 2012, on pourrait parler de 2008. Hein. Voilà, c'est une bonne guerre, mais quand même. Et même de 2000. Donc, voilà, il faut remettre des postes. Il faut que l'administration fonctionne dans son rôle d'administration et d'exécutif. Et puis, il y a des élus. Et si on commence à mélanger élus et exécutifs, on sort du domaine démocratique. Après, je ne crois pas qu'il soit supplétif. Parce qu'on parle beaucoup de la réforme avec la présidence, mais il y a une autre réforme, c'est un amendement petit d'ailleurs, qui est passé avec la réforme des maires, où ils sont formés maintenant, ils ont droit à la formation d'élus pour être élus. Et je crois que ce que dit Mélanie est tout à fait exact, c'est-à-dire que
là où ils doivent être élus, mais ils n'ont pas le droit à l'écharpe, ils n'ont pas le droit à beaucoup de choses.
Mais écoutez, je veux dire, mais l'écharpe, c'est des problèmes de territoire aussi. Il faut pas faire. Je veux dire, j'aimerais bien qu'on me dise, enfin, ici, il y a des gens qui râlent. Il y a des gens qui râlent parce qu'on sort un drapeau algérien pendant un match de foot, donc il faut faire attention. Je ne parle pas des détails. L'ordre du jour du conseil consulaire, ça c'est fondamental. Effectivement, l'administration rechigne à laisser la main à l'ordre du jour. Il n'y a pas que le staff, il y a tout ce qui est bourse, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi je pense qu'il devrait y avoir un budget bourse qui est à la main, un petit budget bourse, mais qui soit à la main de ceux qui connaissent bien le terrain. Il y a l'emploi. L'emploi qui n'est jamais vu par les postes, mais qui est un domaine, l'emploi des Français qui débarquent, qui est un domaine qui est pris en main par beaucoup d'élus consulaires et qui le font très bien et qui ont beaucoup de mal à convaincre et à contraindre leur administration pour mettre des moyens ou tout simplement le mettre à l'ordre du jour. Vous savez, dans le temps, les consuls étaient choisis par les gens. Et ce qui est intéressant dans le rôle des élus, c'est qu'ils sont là beaucoup plus longtemps. Ils sont là beaucoup plus longtemps que les fonctionnaires qui passent tous les 2 ans ou 3 ans. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Et évidemment, il faut que...
faire élire le consul, tout simplement.
Non, parce qu'il y a un rôle administratif. Il faut séparer l'exécutif et l'élu. Enfin, c'est la démocratie. Il y a des rôles d'élus, voilà, qui doivent dire ce que nous faisons, pourquoi les Français ici, quels sont les problèmes des Français ici, mais c'est pas, on peut pas demander à un élu de faire un visa ou de tamponner un passeport, ou il faut faire attention à ce qu'on fait, il y a des rôles différents. Par contre, l'élu doit, et aussi l'élu national, doit veiller à ce que l'administration et l'exécutif marchent bien. Et donc, aujourd'hui, on répond au téléphone dans 13 pays, je pense que ça va continuer à se développer, on répond aux mails en 2 heures, donc ça, c'est important, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de supplétif. Il n'y a pas. Voilà, il faut aussi. Si un consulat ne répond pas au téléphone, il faut faire la plateforme téléphonique pour que ça réponde enfin partout, pareil, à la même vitesse, et qu'on réponde aux mails. Et les élus, ils ont un travail d'élu. Voilà, un élu à Berlin, il n'aura peut-être pas tout à fait la même fonction qu'un élu à Ouagadougou. C'est normal. Les Français de Berlin, ils ont d'autres questions, d'autres projets. La communauté française de Berlin, elle peut avoir une autre vision citoyenne et politique que la communauté française de Ouagadougou. Moi, j'ai fait passer un amendement dans la loi sur l'aide publique au développement pour intégrer. Il les avait oubliés pour intégrer les élus au conseil de développement des 23 pays où on fait de l'aide au développement. C'était évident. D'accord. Donc, c'est ça la différence qu'il faut faire.
D'accord, donc on le voit, le constat est unanime, mais par contre les solutions, et en tout cas les conséquences sont différentes. On va juste dire au revoir à Madame Vogel, qui doit se rendre à une réunion. Merci
en tout cas. Oui, merci beaucoup, merci à vous.
Ce débat.
Bonjour, Mélanie.
On va pouvoir enchaîner sur le dernier thème.
Alors, en effet, on a pris un petit peu de retard.
Un petit peu de retard, on a un quart d'heure, un minute de retard, on va essayer d'aller vite.
Donc, on va aborder le dernier chapitre, juste pour rappeler que cette interview, ce débat, vous pourrez le retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur le site stereochic.fr et lesfrançais.press. Nous abordons maintenant le quatrième et le dernier chapitre, les différents sujets non évoqués encore. Je pense que Fabien va planter le décor.
Alors, rapidement, après, je vais donner la main à Jérémy. Donc, il y a de nombreux sujets qu'on aurait pu aborder, comme le staff, on l'a fait rapidement, mais des sujets aussi qu'on aurait voulu aborder avec Monsieur le ministre, mais cela n'a pas été possible. Et je pense en particulier à une réforme que Monsieur Petit a portée il y a quelques années, que Monsieur Le Gleut vient de reprendre, c'est celle de la résidence du refuge fiscal. Jérémy, je te donne la main.
Oui, on voit qu'il y a eu dans les programmes des différents candidats, Macron, Pécresse et les autres, la question de la résidence en France pour les Français de l'étranger et du lien et du statut fiscal que pouvait avoir cette dernière. Alors, c'est la résidence de repli pour un, la résidence de refuge pour d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, Ronan Le Gleut, où on en est sur cette question ?
Oui, alors, effectivement, au mois de juillet, trois semaines après sa nomination, en tant que président du groupe d'études français de l'étranger du Sénat, j'ai souhaité pouvoir auditionner notre nouveau ministre, Olivier Becht. Et d'ailleurs, je l'en remercie, il a accepté cette invitation donc très rapidement, dès fin juillet. Et j'ai annoncé lors de cette audition, qui a duré plus de 2 heures, que j'avais déposé une proposition de loi créant une résidence d'attache, qu'on peut appeler résidence de repli ou résidence de refuge, sur la base d'une idée qui avait été évoquée notamment le 22 octobre 2020 par un maître de conférence à l'Université catholique de Lille, qui s'appelle Simon d'Aragon, qui ensuite a fait l'objet d'un amendement défendu par Frédéric Petit, puis repris au Sénat. En tout cas, voilà, j'ai déposé une proposition de loi pour vraiment mettre un texte sur lequel on puisse réfléchir collectivement et qui puisse être défendu. L'idée est la suivante. Un Français qui vit à l'étranger a une attache avec la France, il peut avoir un pied-à-terre, un appartement, une maison. Elle est aujourd'hui taxée comme une résidence secondaire. Or, la taxe d'habitation, on le voit dans beaucoup de communes, explose. Et donc, c'est un véritable matraquage fiscal qui s'opère sur cette résidence des Français de l'étranger. Or, pour un Français qui vit à l'étranger, cette résidence est autre chose qu'une résidence secondaire. Cela peut être un refuge. Prenons l'exemple des 1500 Français d'Ukraine. Certains sont partis avant le 24 février ou après le 24 février pour rejoindre cet appartement qu'ils avaient en France. Il est évident que c'est un refuge. Autre exemple, au mois de décembre dernier, l'ambassadeur de France à Addis Abeba en Éthiopie, compte tenu des évolutions de la guerre du Tigré, a appelé les Français à quitter le pays. Et donc, des Français ont quitté précipitamment l'Éthiopie. S'ils avaient un bien immobilier en France, évidemment, c'est un refuge. Mais cela peut aussi être les accidents de la vie, une catastrophe naturelle, un événement, une catastrophe climatique, on le voit en Europe, en Amérique du Nord, etc. Donc, pour toutes ces raisons, et notamment le fait que cela symbolise une forme d'attachement, c'est pourquoi j'ai utilisé le terme de résidence d'attache, d'attachement à la nation, à la patrie, le fait que quand on est un Français de l'étranger, on a la France chevillée au cœur. Et j'ajoute enfin un dernier argument, c'est que c'est aussi un moyen d'attirer des investissements en France. Et donc, pour toutes ces raisons, nous proposons, à travers cette proposition de loi, la création d'un troisième statut fiscal distinct de la résidence principale et de la résidence secondaire, qu'on appelle résidence d'attache, et qui exonère cette résidence de la taxe d'habitation. Alors, deux conditions à cela. Premièrement, c'est une seule résidence. Et second élément, il ne peut pas y avoir de revenus locatifs sur ce bien, puisque l'objet, c'est bien d'avoir un refuge et donc de pouvoir y séjourner en cas de difficulté. Comme je dis, ça peut être un accident de la vie.
Et donc, Frédéric Petit, mais Frédéric Petit travaille aussi sur cette question par rapport à ce que vient de nous partager.
Je vais être plus rapide.
Est-ce que vous avez la même vision que Ronan?
Non, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même vision, parce que d'abord, la loi que propose Ronan sera recalée. En plus, je le remercie d'avoir rappelé l'histoire. Je rappelle quand même que Simon d'Aragon a travaillé avec moi 2 ans. Voilà, Simon d'Aragon était un de mes collaborateurs. Et Simon d'Aragon a travaillé 2 ans avec moi c'était mon conseiller fiscal, et c'est avec moi qu'il a trouvé cette notion et qu'il a effectivement publié 2 ans après. Je l'avais présenté en 2020. Ce n'est pas une mesure fiscale. Sinon on se plante. Sinon, ça sera inconstitutionnel. La proposition de loi sera inconstitutionnelle. Il faut d'abord reconnaître la notion. Donc sur le, je reviens pas sur tout ce qu'a dit sur le repli. Il y a d'autres choses que le repli, il y a d'autres choses que la fiscalité. Il y a le fait qu'on peut pas, je veux dire, si je l'isole, voilà, moi je connais quelqu'un à Berlin, les seules fenêtres qui sont pas isolées dans l'immeuble, c'est celle de cette veuve, parce qu'elle peut pas, elle est pas aidée. Les autres sont aidés, elle est pas aidée. Il ne faut pas en faire quelque chose de fiscal, donc il faut pas en parler au budget, il faut pas en parler maintenant. Il faut faire reconnaître la notion. Et dans les notions, il n'y a pas que des notions négatives. Moi, je suis encore dirigeant du club de foot. Voilà. Et donc, dans les critères que donne Ronan, c'est les critères évidents qu'il donne, que j'avais aussi partagé avec les sénateurs en juillet 2020, un jour à Bercy, il faut en rajouter d'autres. Évidemment, un seul par foyer fiscal, évidemment pas de location. Il faut aussi rajouter le fait que c'est pas ostentatoire. Il faut aussi rajouter le fait que la démarche de déclaration passera par le maire de la commune. Voilà, c'est ça une raison de repli. Et après, il faut créer la notion, parce que là où il y a une erreur fondamentale d'approfondissement, et c'est un détail, c'est un peu technique, mais ce n'est pas le droit fiscal qui crée la résidence principale ou la résidence secondaire. Ça n'a rien à voir. C'est pas de la fiscalité, ça. Il faut créer la notion hors du droit fiscal, dans le droit du logement, dans le droit des collectivités, il faudra choisir lequel. Et après, chaque législateur, que ce soit le législateur d'État, le législateur territorial, pourra dire ce qu'il fait avec les résidences de repli. Voilà. Peut-être que certains décideront, les résidences de repli ne sont pas sujettes à ci, ou à ça, ou à ça, mais pas uniquement en termes de fiscalité, en termes d'obligation, etc. Donc il faut faire une loi hors fiscalité.
Frédéric Petit, merci. On voit que ce n'est pas uniquement de la fiscalité, ça peut être aussi autre chose. Max Bégon, sur ce sujet-là, on voit passionné et passionnant entre Ronan Le Gleut et Frédéric Petit, la position du Rassemblement National et la vôtre par rapport à cette situation?
Eh bien, de manière générale, le Rassemblement national est favorable aux mesures d'enracinement. C'est pour ça que dans son programme, Marine Le Pen voulait réformer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, ça paraît aller dans le bon sens. Et puis, on est aussi très en faveur que le retour en France pour les expatriés soit le plus facile possible. Donc pour nous, c'est plutôt une bonne chose si cette mesure venait à se réaliser, si les conditions qui y sont attachées sont raisonnables et que ça ne devienne pas un millefeuille ou une usine à gaz.
Millefeuille ou usine à gaz, on voit que le débat sera sans doute si passionné et passionnant au Parlement.
J'avais une petite question pour Monsieur Petit, parce que si le texte de Monsieur Le Gleut est rejeté, il a au moins le mérite d'exister. Quand est-ce que les réformes qui ont été promises pendant la campagne, dont ce refus, cette résidence de repli, quand est-ce que ça, on va passer la seconde? Quand est-ce qu'on va s'y mettre?
Écoutez, il y en a deux qui doivent être dans le budget. Donc le budget, je le découvre. Hein. On démarre cette semaine. Je démarre mes auditions cette semaine. C'est le chèque éducation et l'extension du pass culture. Donc là aussi, je veux pas d'usine à gaz. Le chèque éducation, il va falloir qu'on travaille dessus. L'extension du pass culture également. Et encore une fois, la résidence de repli. Je le sais parce que j'ai beaucoup travaillé avec Bercy et avec d'autres ministères. Ce ne sera pas une mesure qui pourra passer dans une loi de finances. C'est impossible, c'est anticonstitutionnel. Donc il faudra d'abord aller créer la notion, donc ça sera au cours de l'année 2023, il faudra trouver le bon véhicule législatif, soit une niche, soit une initiative, il faudra qu'on trouve, mais c'est forcé, on ne peut pas faire autrement, ça ne peut pas être une mesure fiscale.
Ok.
Merci à tous. La vie démocratique se vit en direct sur Stéréo Chic avec lesfrançais.press. D'ailleurs, au passage, je vous rappelle que nous sommes la seule radio à vous proposer chaque jour et chaque heure 60 secondes expat, le seul flash d'infos pour les expatriés à travers le monde. Je pense qu'on a fait un beau débat avec pas mal de thèmes abordés. Évidemment, on a toujours envie d'en dire un peu plus. Mais je voulais remercier tous les intervenants d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct pour ce rendez-vous. Est-ce que, Fabien, tu veux peut-être dire un dernier mot ?
Non, tout simplement, on voit qu'il y a encore beaucoup de chantiers pour les Français de l'étranger. Il y a beaucoup d'attentes sur ce mandat. Et est-ce qu'ils vont être réalisés ? On l'espère. En tout cas, la démocratie s'enracine de plus en plus chez les Français de l'étranger. C'est ça qui est important. Et on espère qu'à chaque élection, la prochaine, ça va être à Montréal pour la consulaire partielle, qu'il y aura plus de participants, plus de Français de l'étranger qui prennent leur destin en main. Car s'ils quittent la France les accompagne partout.
Jérémy, est-ce que vous nous laissez l'occasion de dire un dernier mot ?
Allez-y,
bien sûr, allez-y, monsieur.
Écoutez, je tiens à vous dire que je me réjouis se mette en œuvre aujourd'hui un amendement que j'avais déposé au mois de décembre et qui a été adopté dans la loi, qui vise à ce qu'un conseiller des Français de l'étranger, non membre de l'Assemblée des Français de l'étranger, puisse désormais siéger au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Exact, on n'a pas eu le temps d'aborder, et c'est vrai que c'est aussi dans cet esprit de réformer la gouvernance, puisqu'il y a plus de parents d'élèves maintenant représentés, mais il y a aussi les élus, qui les élus étaient présents, mais de façon, on va dire, ad hoc, puisque leur voix n'était pas prise en compte. Et grâce à l'amendement de M. Le Gleux, c'est un peu plus de démocratie qui est injectée dans la AFE.
Il y avait déjà, excusez-moi, mais il y a déjà des représentants de l'Assemblée des Français à l'étranger. Ça en rajoute un troisième qui ne sera élu, mais pas représentant des Français à l'étranger. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose, une petite information pour les entrepreneurs français à l'étranger, parce qu'il n'y a pas, je le dis souvent, il n'y a pas que la politique et les grands politiciens et le Parlement qui peut changer les choses. Il y a aussi les citoyens qui se prennent en main, et les conseillers du commerce extérieur de la France, dont je fais partie, ont fait une réforme. Aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur français à l'étranger, même s'il ne dépend pas d'une filiale en France, peut avoir un volontaire international en entreprise. Ça fait un an et demi que ça existe. Ceux qui ont envie de savoir comment on fait, ils me contactent sur mon adresse officielle. Je leur expliquerai, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé par le Parlement, comme beaucoup des choses qui changent la vie.
Bon, on aura sûrement l'occasion de vous inviter pour en reparler, parce que c'est très intéressant. Monsieur Bégon, un dernier mot pour le Rassemblement national ?
Eh bien, je souhaite que le nouveau ministre, Monsieur Becht, soit fidèle à ce qu'il a déclaré, c'est-à-dire que le lycée doit être le moyen de diffuser la culture française et l'amour de la France, ce qui est un peu en contradiction avec la déclaration d'Emmanuel Macron qu'il n'y a pas de culture française, mais j'espère qu'il suivra ce qu'il a dit.
Et
nous surveillerons ça.
Merci à
Jérémy,
tous.
Jérémy, un petit mot pour conclure aussi, peut-être ?
Non, moi je vous remercie, ça montre la richesse et l'intérêt des débats,
merci
je vous invite
à
la prochaine fois.
Merci à tous, on va
relancer
sur Stéréo Chic, et vous pouvez retrouver en podcast dès cet après-midi, tant sur le site de la radio que sur lesfrançais.press, ce podcast avec la retranscription des éléments qu'il ne fallait pas louper.
Voilà, merci, j'en profite pour rappeler, ça m'a fait plaisir également. Je rappelle qu'on fait un mois spécial sur la mobilité internationale en octobre, en partenariat avec les Français. Bon, après, on aura l'occasion donc de revenir sur ces sujets. Merci à toutes et à tous d'avoir été sur la radio des Français dans le monde.